Alors, bonjour tout le monde. En ce lundi 24 janvier, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher, enregistrer le message en MP3, comme on fait à l'église d'habitude, mais vous savez que les événements d'hier, ça n'a pas été exactement comme on avait prévu, disons, et donc je n'ai pas enregistré, mais vu que le message était tellement, je crois, d'appoint, et ses vérités tellement puissantes sur Christ, notre vie triomphante, le Seigneur, en fait, cette nuit, le Seigneur m'a réveillé pendant la nuit. J'ai eu une nuit, mettons, pas des plus reposantes, mais joyeuse dans le Seigneur, parce que quand le Seigneur me réveille comme ça pour prier, je sais que c'est une mission. Donc, j'ai prié pour vous, chacun, j'ai prié pour l'Église, nos autorités et tout ça. Et c'est à travers ce temps-là que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ça. Je vais vous dire avant de commencer comment je suis. J'aime pas prendre le mot fier, là, mais j'ai mis content hier dans l'email, mais je suis fier de vous. Non seulement ceux qui étaient là, ceux qui n'ont pas pu l'être, cette unité, cette joie, ce soutien mutuel, c'est précieux, c'est inouï. Je suis fier de Dieu parce que je sais que c'est son œuvre, c'est sa grâce, et donc je lui rends gloire. Donc sans plus tarder, j'aimerais juste lire les trois versets de notre texte, après quoi je voudrais prier et vous partager ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, dans Apocalypse, au chapitre 12, les versets 10 à 12, on peut lire « J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, et l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Seigneur, on te remercie de ce que on a ta parole entre les mains, et je suis content ce matin de pouvoir partager avec mes frères et sœurs, soit qu'hier, ils n'ont pas eu le message exactement comme c'était prévu, mais aussi ceux qui n'ont pas pu être là. Seigneur, on est content de pouvoir avoir ta parole et la lumière comme ça sur notre sentier, la lampe à nos pieds pour chaque pas que tu nous demandes de faire. Oui, on vit dans un temps où le Satan se déchaîne. Merci pour le fait que tu l'as vaincu. Tu l'as exposé à une ignominie. Et c'est un ennemi vaincu. Il peut faire du bruit, il peut essayer de faire peur, mais au bout du compte, nous sommes en Jésus-Christ plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour l'Église. Merci pour les paroles d'encouragement par courriel, les téléphones, les gens qui, dans ton amour, sont animés à s'encourager les uns les autres, se soutenir les uns les autres. Et Seigneur, maintenant avec ta parole, on veut être soutenu par toi, Seigneur, notre plus important soutien, notre rocher, notre haute retraite. Merci, Seigneur, qu'on peut prendre ce temps au nom de Jésus. Amen. Alors, dans Apocalypse, au chapitre 12, on voit, vous savez, l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ est donnée un peu comme une image qui vaut mille mots. Je ne sais pas si vous avez lu récemment Apocalypse 12, mais ça dépeint de façon puissante l'histoire spirituelle de Satan, de la nation d'Israël, qui est la nation mère du Messie. Donc on voit vraiment les images qui sont dans la Genèse avec le rêve de Joseph, qui sont ramenées ici dans l'Apocalypse, donc tout ce qui est tout début, ce qui est tout début dans sa forme naissante, et ici dans sa forme culminante dans l'Apocalypse. Et on voit dans les versets qu'on a lus une guerre spirituelle, une lutte féroce, prolongée, sanglante, qui a opposé depuis le tout début, depuis la chute, quand le péché est rentré dans le monde jusqu'à maintenant, cette lutte qui oppose Jésus-Christ à Satan. Jésus, le germe de Ésaïe, et celui de la postérité de la femme de Genèse 3:15, qui a écrasé la tête du serpent. On voit comment cette histoire-là culmine ici dans le texte qu'on a sous les yeux. Mais on voit aussi, il ne faut pas manquer le côté horrible qui est dépeint ici. On voit Satan qui est l'accusateur des frères, qui accuse jour et nuit. Et ce n'est pas nouveau, même dans Josué, avec Josué dans Zacharie au chapitre 3, ça nous dit que Dieu s'est fait a montré une vision à Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. On sait aussi que Satan est celui qui a accusé Job de dire « Ah, c'est pas de bon cœur, c'est pas sincèrement qu'il t'honore et qu'il t'adore. » Donc, c'est le côté horrible de ce qui est dépeint ici. Notre ennemi, l'accusateur des frères. Et c'est aussi tout l'arrière-plan de vie, de honte, qui sont assaillés, par la honte de leur péché, qui fait en sorte que, comme on l'a vu dans un message il n'y a pas très longtemps, fait en sorte qu'on se cache, comme dans le jardin Genèse 3:10. On se cache les uns des autres, on se cache aussi de Dieu, le seul qui peut et qui veut nous délivrer de cette honte. Donc c'est ça aussi qu'on a dans ce passage-là. C'est pour ça que moi, l'une des vérités les plus merveilleuses qui me rend tellement reconnaissant dans mon cœur pour le louer, c'est le fait qu'il m'a libéré de cette honte, de la honte de mon péché, de la honte de mon passé, de ce que je suis dans ma nature pécheresse. Là-dessus, j'ai un cantique, je vous le cite en anglais, puis je vais vous le traduire ensuite. Mais il y a un cantique qu'on aime beaucoup, que ça dit « He who is mighty has done a great thing, taken on flesh, conquered that sting, shattered the darkness and lifted our shame, glory to his name. » Donc ça dit « Celui qui est puissant a fait une grande chose, il a pris une chair, conquérit l'aiguillon de la mort, il a fait éclater les ténèbres, il a enlevé notre honte, gloire à son nom. » Oui, vraiment, c'est une grande vérité du fait que notre Dieu est plus que vainqueur et que par lui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ensemble, j'aimerais qu'on voit dans le texte qu'on a ce matin un joyau, spécialement l'expression ici, dans le verset 11, à la fin, ça dit « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Pourquoi ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort? Parce que ce n'était pas leur vie qui comptait. Ce n'est pas leur vie qui les soutenait, mais celle de Christ. Christ, leur vie triomphante. C'est le titre de mon message. Ces gens-là, ces saints de la grande tribulation, Christ était leur vie. S'ils vivaient, ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Et c'est en contraste avec ce qu'on peut lire dans Hébreux au chapitre 2, où est-ce que ça dit que les gens non sauvés, chapitre 2, verset 15, par crainte de la mort, sont retenus toute leur vie dans la servitude. Satan tient notre monde dans la servitude, comme on le voit beaucoup en ce moment, mais c'est de toute époque, avec différentes façons, par crainte de la mort. Mais gloire à Dieu, nous sommes libérés de la puissance spirituelle, de la peur et de la honte par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, le prince de la mort, Satan, qui est de la bouche de Jésus lui-même, meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Quand il parle, il profère des mensonges, parce qu'il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Il veut provoquer la peur, il veut provoquer l'anxiété. Mais pour ceux qui ne craignent pas la mort, comme justement on l'a dans le verset, qui n'aiment pas leur vie pour s'y attacher au point de craindre la mort, eux, Christ est leur vie triomphante. C'est ce qu'on va considérer ensemble dans ce message que je veux vous partager. Avec l'amplitude ici de vérité tellement grande, pourquoi? Parce que ces vérités, c'est que nous avons la libération par Jésus-Christ qui est la liberté lui-même. Et ces vérités viennent de Christ qui est la vérité lui-même. Donc, vous allez voir aussi comment tout ça, c'est brûlant d'actualité. C'est des événements qu'on croit être futurs, selon notre interprétation de l'Apocalypse. Et donc, on voit que ces choses étaient bonnes avant, elles sont bonnes maintenant, et elles vont l'être encore pour les événements à venir. Donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble simplement deux sources où puiser à Christ notre vie triomphante. D'abord, ça nous dit au début du verset 12, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » La première source où puiser la Christ, notre vie triomphante, c'est la vie du sang de l'agneau. Dans Lévitique, au chapitre 17, verset 11, on peut lire « Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donnée sur l'autel afin qu'elle serve d'expiation pour vos âmes. » Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Évidemment, tout ça nous pointe à la croix, où le flot de la vie a jailli. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et là où la mort du péché a été, Christ a versé son sang, a donné sa vie pour l'expiation de nos péchés. Et on a à ce sujet-là une vérité merveilleuse qui nous est donnée dans Romains 5, 10. Ça dit, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, ça c'est l'expiation, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Sauvés par sa vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, la mort expiatoire a son rôle fondamental et crucial, et c'est merveilleux. Ça veut dire, la mort expiatoire, ça veut dire que Christ a payé pour nos péchés. Mais plus que payer pour nos péchés, il nous donne sa vie parfaite, sa justice. La vie que personne n'a jamais pu vivre, il l'a vécu à notre place. Non seulement il a enlevé notre péché, mais il nous a donné sa justice et la vie qui va avec cette vie parfaite. Ça nous donne une assurance merveilleuse parce qu'on ne sera jamais à la hauteur pour vivre comme on devrait vivre. Mais ce n'est pas grave parce que Christ a vécu cette vie à notre place. Nous sommes sauvés par sa vie. Quelle vérité merveilleuse! Et j'ai une application spécifique que j'aimerais développer sur ce point, le fait d'être sauvé par sa vie, à travers quelques versets dans Ésaïe qui m'ont touché spécialement dernièrement. Avec... Ésaïe chapitre 7 d'abord et verset 9, ça nous dit dans Ésaïe 7, 9, en fait c'est surtout la fin du verset là, parce qu'au début ça parle de Samarie, puis bon c'est plus au niveau du contexte historique que vous pourrez regarder par vous-même, mais le prophète dit dans la fin d'Ésaïe 7, 9, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si on transpose cette vérité à notre réalité actuelle, ça veut dire que si nous ne croyons pas que la vie de Christ, la délivrance par son sang, et son sang c'est sa vie qu'il a donnée pour nous, si nous ne croyons pas que c'est notre plus grand secours, notre plus grande sécurité, nous ne pourrons pas subsister dans l'hostilité actuelle.